Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais avec vous continuer sur cette belle réalité qu'est la pureté. La pureté du cœur de Jésus, du cœur de Marie, notre pureté, car c'est une béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous avons commencé d'aborder ce sujet dans la catéchèse précédente et aujourd'hui je voudrais continuer, terminer avec vous, avec, pour commencer, un petit mot de Luisa Picaretta qui nous dit dans le tome 3 du Livre du Ciel, le 21 décembre 1899, « Ce matin, brisant un long silence, mon aimable Jésus me dit « Je suis le réceptacle des âmes pures. » En me disant cela, il me donna une lumière intellectuelle qui me fit comprendre plusieurs choses sur la pureté. Mais je ne puis traduire en mots que très peu ou rien du tout de ce que je ressens dans mon intellect. Cependant, la très honorable dame Obéissance veut que j'écrive quelque chose, même si ça risque de manquer de sens. Pour la contenter, elle seule, je dirai mes sottises sur la pureté. Il m'apparaît, nous dit Luisa, que la pureté est le plus noble joyau qu'une âme puisse posséder. L'âme qui possède la pureté est investie d'une lumière candide. En la regardant, Dieu y voit sa propre image. Il se sent tellement attiré par cette âme qu'il en tombe amoureux. Son amour pour elle est si grand qu'il lui donne son cœur très pur comme refuge. D'ailleurs, seulement ce qui est pur et sans tache peut entrer dans son cœur. À lui, Jésus, dans le cœur de Jésus, il n'y a aucune impureté qui peut rentrer. L'âme qui possède la pureté garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée au moment de sa création. Rien en elle n'est souillé ou ignoble. Comme une reine qui aspire aux noces du roi céleste, cette âme préserve sa noblesse jusqu'à ce que la noble fleur qu'elle est soit transplantée dans le jardin céleste. Cette fleur virginale a un parfum distinctif. Elle s'élève au-dessus de toutes les autres fleurs, au-dessus des anges eux-mêmes. Elle se distingue par une beauté différente, tellement que tous sont pris d'estime et d'amour pour elle. Il la laisse passer librement pour qu'elle atteigne l'époux divin. La première place auprès de notre Seigneur est donnée à cette noble fleur. C'est pourquoi notre Seigneur se réjouit tant de marcher au milieu de ces lys qui parfument et la terre et le ciel. Il se plaît d'autant plus à être entouré de ces lys qu'il est lui-même le premier, le plus noble et l'exemple de tous les autres. Oh, comme il est beau de voir une âme vierge. Son cœur ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Elle n'est obscurcie par aucun amour qui n'est pas de Dieu. Même son corps dégage la pureté. Tout est pur en elle. Elle est pure dans ses pas, dans ses actions, dans son discours, dans ses regards, dans ses mouvements. Simplement à la regarder, on reçoit sa fragrance, son parfum. Quel charisme, quelle grâce, quel amour réciproque, quelle amoureuse ingénuité entre l'âme pure et son époux, Jésus. Seulement celui qui la côtoie peut en dire quelque chose. Cependant, tout ne peut être dit, et je ne sens pas que je sois habilité à parler sur ce sujet, c'est pourquoi je fais silence et je passe. Magnifique passage du Livre du Ciel, au tome 3, 21 décembre 1899, où Louisa nous dévoile quelque chose du mystère du Christ, la pureté de son cœur. On perçoit évidemment le mystère de Marie, la toute pure, et puis des âmes qui vivent de cette pureté du cœur de Jésus et de Marie. Alors cette pureté est une préparation, une belle préparation à ce qu'on appelle, à ce que l'Église appelle la vision béatifique. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Psaume 24. Et voilà que le Seigneur nous révèle que nous sommes faits pour vivre pour toujours par lui, avec lui et en lui, et le voir face à face. C'est magnifique. Est-ce que vous saviez que, si tout se passe bien, vous verrez Dieu face à face? Cette vision béatifique, qui est une connaissance contemplative, dans l'amour évidemment, une vie en Dieu, par Dieu, avec Dieu au ciel. C'est la vision béatifique, béatifiante, c'est-à-dire que Dieu est en vous, vous êtes en lui, et vous vivez tout en lui. Vous aimez en lui, vous connaissez en lui, vous marchez en lui, vous parlez en lui, vous faites des trucs en lui, par lui, avec lui, vous regardez en lui, par lui. Et alors on voit clairement, on comprend à ce moment-là que le temps de la terre qui nous est donné de vivre est une préparation à ça, à la vision béatifique, à la béatitude. Nous sommes faits pour le ciel. Et comme on dit, nous aurons le ciel de notre terre, c'est-à-dire nous aurons l'éternité de ce que nous aurons vécu sur terre. Si on passe son temps sur terre à être dans des blasphèmes sans se repentir, eh bien on aura l'éternité qu'on choisira. On aura l'éternité qu'on choisira. Mais si on s'applique avec la grâce, rien sans la grâce de Dieu, ici-bas, pendant le temps qui nous est donné, à déjà pratiquer ce que nous vivrons dans la lumière de gloire, dans la grâce ici-bas. Nous avons la grâce qui nous est donnée. La grâce, c'est quoi? C'est une participation à la vie de Dieu. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre, parce que notre vie est courte, même si nous avons 91 ans. notre vie est très courte. Et le mystère de notre vie, c'est quelque chose d'absolument grandiose, parce que nous avons un commencement, nous n'existions pas avant, nous existons avec un commencement et sans fin. La mort, franchement, pour nous chrétiens, c'est pas grand-chose. Excusez-moi de vous choquer. Mais si nous sommes déjà ici-bas en train de vivre dans la foi, l'espérance et la charité, ben la mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au chapitre 163. En parlant de la foi, les commencements de la vie éternelle, la foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Ah bon ? Ah ben moi je croyais que c'était faire du business, engranger le maximum de choses. Non. Le but de notre cheminement ici-bas, c'est la vision béatifique. Nous sommes sur terre pour goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face, comme dit 1 Corinthiens 13. Tel qu'il est, comme dit 1 Jean 3. La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle. Vous avez une relation avec le bon Dieu, avec Jésus, avec la Sainte Trinité. Eh bien, c'est cette relation-là qui va continuer. Alors, plus sous le mode de la foi. Parce que, comme dit Saint-Pierre lui-même, vous qui aimez le Seigneur sans le voir encore, et vous que la puissance de la foi garde. Mais au ciel, il n'y a plus de foi. C'est fini. On n'a plus besoin. Il n'y a même plus d'espérance au ciel. Plus besoin. Pourquoi ? Parce qu'on possède celui qu'on aime. Celui qu'on aimait ici-bas par la foi. Eh bien, il n'y a plus que la charité. Mais la foi, c'est ce don, cette vertu théologale, c'est-à-dire c'est un don de Dieu qui nous est donné. On ne fabrique pas la foi nous-mêmes. C'est un don de Dieu qui nous est donné pour qu'on puisse le connaître. Ici-bas, tel qu'il est, tel qu'il se révèle. C'est très très grand la foi. Peut-être qu'on refera cette année des catéchèses sur la foi. C'est immense et c'est très important. Maintenant, cependant, nous dit le catéchisme, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, et nous connaissons Dieu comme dans un miroir, d'une manière confuse, imparfaite, lumineuse par celui en qui elle croit. La foi est vécue souvent dans l'obscurité. La foi est une lumière. La foi est une lumière qui nous permet de vivre ici-bas dans une certaine obscurité de la lumière. Nous ne sommes pas encore dans la claire vision. Mais ce que nous vivons dans la foi va éclore en vision béatifique. Toutes les fois où vous dites à Jésus que vous l'aimez, eh ben ça engrange de la vie éternelle. Ça engrange votre futur ciel, vous voyez. La foi peut être mise à l'épreuve. Le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure. Ben, c'est sûr, si tu regardes les médias, si tu écoutes les médias mainstream qui te balancent à longueur de journée des mauvaises nouvelles, qui t'injectent le virus de la peur tous les jours de ta vie, ah ben là, c'est sûr que tu vas trembler et que ta foi peut être ébranlée. Et que tu vas te dire, ben finalement, c'est sûr que... Est-ce que ma vie dépend vraiment de Dieu ou du ministre de la Santé, vous voyez ? Au bout d'un moment, on ne sait plus trop. Du préfet ? De qui, ma vie ? Est-ce que ma vie dépend de qui ? Ma santé dépend de qui ? Voyez que toutes ces épreuves que nous traversons, que nous avons commencé à traverser ensemble, ensemble, ce sont des épreuves qui vérifient la qualité de notre foi, comme dit l'Écriture. Ce sont des occasions providentielles pour vérifier notre foi, c'est-à-dire pour vérifier et pour grandir dans la foi. Tu es sur terre, pourquoi? En vue de quoi? Ben, je vais te dire, en vue de la vision béatifique, en vue du ciel. Donc c'est urgent pour toi qu'à l'occasion de ces épreuves, tu poses des actes de foi pour grandir dans ton intimité avec Dieu. Parce que c'est cette intimité avec Dieu que tu as aujourd'hui et chaque jour qui continue, qui traverse la mort. Mais si tu es avec Dieu, ben tu traverses sans problème. Parce que c'est ce lien, comme un cordon ombilical, si vous voulez, par lequel on est nourri. C'est le même être vivant qui est dans le sein de sa mère et qui sort du sein. Ah, c'est plus le même milieu vital du tout. Changement de milieu de vital. On a passé 9 mois dans le sein de notre mère et d'un coup, on débarque dans un monde. Mais vous comprenez que si le lien avec la mère, avec l'entourage, est modifié dans sa modalité, c'est le même lien. C'est une analogie pour faire comprendre le passage de cette terre au ciel. Et l'image du cordon ombilical, ça nous parle. Eh bien, on coupe le cordon ombilical, on change de pièce, mais si on est dans la maison du Père, on ne change pas de maison. On passera de la lumière de la grâce à la lumière de gloire. Moyennant ou pas, hein, justement, le purgatoire. Pourquoi est-ce qu'il y a le purgatoire? Parce que c'est une justice et une miséricorde de Dieu pour nous. C'est qu'au ciel, il n'y entre rien d'impur. Il faut que tout soit purifié. Notre foi, notre espérance, notre amour, notre charité, il faut que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit, tous nos pas, nos regards, nos discours, nos actions, nos paroles, tout, 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 absolument tout doit être purifié. C'est une bonne nouvelle, non? On a hâte quand même de vivre, d'apprendre ces choses, d'avoir une vie pure. On n'est pas dans un puritanisme, vous voyez, moral, moralisant. C'est pas ça. On veut vivre de la pureté du cœur de Jésus. On veut vivre de la pureté du cœur de Marie. Alors, Jésus qui, on a vu ce que c'était qu'un cœur dans la catéchèse précédente, quand on dit que tout Jésus est pur, bien sûr, il est immaculé, saint. La merveille pour nous, chrétiens, c'est que on croit que tout ce que Jésus vit, il nous l'offre. Nous sommes héritiers de Dieu, cohéritiers avec le Christ. Donc, ça veut dire que ce que Jésus vit, lui, dans ses pensées, qui ne sont que des pensées 100% pures, c'est-à-dire qui regardent le Père, ses desseins bienveillants, qui ne sont que bonté, le regard de Jésus, les regards de Jésus, oui, ils nous sont donnés. Vous savez qu'on peut regarder comme Jésus, dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a la foi. Parce que Jésus le veut bien, et qu'on a la foi, et que nous, on est d'accord, pour vivre, pour communier, par exemple, au regard de Jésus. Il y a une parole du psaume 35 que j'aime beaucoup, qui dit: Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Autrement dit, il nous faut nous convertir. Par exemple, dans le domaine de nos pensées, dans le domaine de nos regards. regarde Jésus dans l'évangile. Pensons à ce moment où le jeune homme riche vient à lui, Jésus le regarde et il l'aime. Pensons à la manière dont Jésus a regardé Marie-Madeleine. Ah, Marie-Madeleine, elle avait été regardée, on va dire, par des hommes. C'était pas des beaux regards, vous voyez, c'était pas des regards purs, pas du tout. Elle avait été mal regardée, Marie-Madeleine. Ah, peut-être bien parce que elle n'était pas bien dans son cœur non plus. Elle n'a pas suscité beaucoup de regards purs. Et voilà que Jésus débarque dans sa vie et la regarde. D'un regard tel qu'elle est rectifiée dans son cœur. Parce que quand j'ai quelqu'un, en l'occurrence Jésus, Marie, nous regarde, c'est d'une telle puissance de bonté et d'amour, il y a une telle pureté, que ça nous rectifie. Se laisser regarder par Jésus en vérité, se laisser regarder par Marie en vérité, ça nous remet d'un coup dans notre cœur. Ça vient faire fondre plein de choses, les peurs, les inquiétudes, les mélanges, tout. Ça nous rectifie d'un coup, on se retrouve, boum, chez nous, dans notre cœur, en nous-mêmes, pile dans le bon axe du regard de Jésus et de Marie. Aujourd'hui, essayons de recevoir comme cadeau le regard de Jésus. Non seulement le regard que Jésus pose sur nous, c'est une première chose très importante, apprendre à se laisser regarder par Dieu, par le Christ. En vérité, pas un peu avec notre imaginaire, oulala, qu'est-ce qu'ici me regarde, qu'est-ce qu'il va me dire, il va froncer les sourcils, ça c'est de l'imaginaire, ça, vous voyez. C'est pas la réalité. La réalité du regard de Jésus, on le vit dans la foi. Et dans la foi, Seigneur, j'accueille ton regard que tu poses sur moi. Et si je vis ce regard en vérité, eh bien, la puissance de ton regard va faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire ça va me rectifier, ça va me faire du bien et ça va me dilater. Parce que nous existons sous un regard. Dieu nous regarde. Dieu ne cesse de nous regarder. Alors, je vois pas pourquoi des parents regardent leur nouveau-né tout, j'allais dire, éberlué par le mystère et la merveille qu'il est, en disant des mots qu'on ne comprend pas. Il est mignon, ils sont émerveillés, les parents. Et je vois pas pourquoi Dieu ne serait pas émerveillé en nous regardant. Ah bon? Vous vous êtes dit ce matin, en vous réveillant, que Dieu est émerveillé par vous? Ou vous vous êtes dit ce matin, oh là là, ça fait une journée, là, ça va être dur. Hein. Le métro, le masque, compliqué, hein? Aujourd'hui, Dieu te regarde. Et il fond d'amour pour toi. Voilà le cœur pur, le regard pur de Jésus qui te regarde. Qu'est-ce qu'il voit quand il te regarde? Il voit la merveille que tu es. La merveille qu'il a créée avec le Père et le Saint-Esprit. Il voit ça. Toi, peut-être que tu as du mal à voir la merveille que tu es, parce que tu ne vois que tes misères. Et tu te caches encore devant le vrai regard de Jésus, parce que tu as peur qu'il te fasse un reproche, là. Attention. Une petite culpabilité en plus. Le vrai regard de Jésus, c'est un regard qui sauve, qui libère et qui rectifie, qui convertit. Et de fait, dans ta lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière, et dans la lumière du regard de Jésus, on voit ce qui est à corriger. On voit les âneries, les bêtises et le péché, le nôtre. Mais tant qu'on est sous ce regard d'amour, on peut vivre la contrition et on peut se convertir. On ne se convertit pas avec un bouquin, avec des lois, avec des « j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, c'est pas bien ». On se convertit devant quelqu'un. Devant quelqu'un qui nous aime, qui est vivant et qui nous aime d'un amour de feu. Ses yeux sont comme des flammes, dit l'Apocalypse. Alors oui, le Seigneur nous regarde avec son regard pur. Son regard qui n'enferme pas le pécheur dans son péché. Nous, quand même, on a une manie, c'est que dès qu'on voit en nous, ou surtout chez les autres, les trucs qui vont pas, on les enferme dans ce qu'on a vu qui n'était pas terrible. Jésus, en ce temps-là, disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?» Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors, tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Comment est-ce qu'on enlève la paille dans l'œil de notre frère? C'est d'abord en enlevant la poutre qui est dans le nôtre, en nous laissant regarder par Jésus. Et là, il y a tout qui tombe. Et du coup, en nous laissant regarder par Jésus, en recevant son propre regard, on va se mettre à regarder notre frère du regard même de Jésus. Du coup, il va faire l'expérience qu'il est aimé d'un regard miséricordieux. Et du coup, il verra ce qu'il y a enlevé. Quelle conversion! C'est tellement facile de montrer du doigt et d'enfermer. C'est pas comme ça que regarde Jésus. Ben non. Pourquoi? Parce que lui, il est pur. Heureux les cœurs purs. Ils anticipent la vision béatifique. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons les dons du Saint-Esprit, notamment le don d'intelligence, le don de sagesse, le don de science, qui nous permettent vraiment de regarder les réalités à partir du regard même de Dieu. Alors aujourd'hui, on peut par exemple dire à Jésus, ben Seigneur, moi je veux vivre cette béatitude davantage, et du coup je renonce, par exemple, à regarder mes frères en les jugeant, avec un petit regard condamnateur au passage, un regard qui enferme. Ah, j'ai bien vu ce qui n'allait pas. Ouais, mais est-ce que t'as vu le regard de Dieu sur lui? Ah ben non, pas vu. Ah, donc t'es un aveugle. Donc un aveugle qui guide un autre aveugle, tous les deux tombent dans un trou. C'est le regard de foi qui nous sort de la cécité. Tant que je n'ai pas un regard de foi sur moi-même, tant que je ne me regarde pas comme le bien-aimé de Dieu, comme un chéri du Père, je ne peux pas regarder mon frère, ma sœur comme tel, parce que moi-même, je ne me regarde pas comme tel. Aujourd'hui, conversion du regard. Béatitude des cœurs purs qui voient Dieu. Est-ce que tu te vois sous le regard de Dieu? En vrai, ben non, non. Ton corps, non seulement ton cœur, ton âme, mais ton corps aussi. Est-ce que tu regardes ton corps sous le regard de Dieu ou sous le regard des magazines de mode? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te regardes? Très important. Vous avez sans doute fait l'expérience de certains regards, de l'expérience du regard dans votre vie, bien sûr. Des regards qui froncent le sourcil, des regards en colère, des regards tristes. Des regards d'une profondeur. Je me rappelle quand j'ai eu la grâce de serrer la main du pape Benoît XVI à Rome, avant d'envoyer sa main pour serrer la mienne, il m'a regardé. Et Benoît XVI avait une profondeur de regard, il m'a regardé dans mes yeux. Je me rappellerai de ce regard de Benoît XVI. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait comme les hommes politiques à serrer la main sans vous regarder. Non, il m'a regardé. Et je peux vous dire, Benoît XVI, il a une profondeur de regard. Pape François aussi. Pourquoi? Parce que je pense que la vie de prière, l'intimité avec Dieu, ça creuse le regard. Et je pense que Benoît XVI, encore aujourd'hui, il se laisse regarder au cœur même de son corps qui est ce qu'il est à son âge. Au cœur même de ses limites. Oui, c'est quelqu'un qui, en ce moment même, j'en suis persuadé, se laisse regarder par Dieu. Du coup, il voit clair. Vous voulez voir clair? Laissez-vous regarder par Dieu, par le vrai Dieu. Pas parce que vous pensez de vous-même. Et pas en vous justifiant, non, moi je ne suis pas digne d'être regardé par Dieu parce que depuis tout petit je fais que des bêtises et des gros péchés et je ne suis pas sûr que Dieu me pardonne, donc je me cache du regard de Dieu parce que j'ai peur. Ou à l'inverse, je me regarde au-dessus. Je me vois plutôt supérieur aux autres, plus intelligent, plus... Ah, j'ai quand même des diplômes, tout ce que je fais depuis tout petit, ça réussit plutôt bien. Ah, je suis quand même quelqu'un avec des qualités quand même assez rares. Aveugle! Tu es aveugle! Tu ne te vois pas bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le regard de Dieu sur toi. Tes qualités, tes talents. Ton développement personnel, on n'en a rien à faire. Excuse-moi de te dire, mais on n'a rien à faire de ton développement personnel. C'est pas la question. La question, c'est la vision béatifique. Est-ce que tu te prépares à la vision béatifique? Ah ouais, mais j'ai des talents. Rien à faire. Mais j'ai plein de qualités que je pourrais mettre au service de Dieu. Mais ok, mais ne rate pas le regard de Dieu sur toi. Ne pense pas que tu vas être plus avoir une place plus prépondérante dans le royaume parce que tu as des talents. Qui c'est qui t'a mis ça dans la tête? Tu n'es pas là pour faire des grandes choses, non. Tu es là pour vivre avec Dieu, ça n'a rien à voir. Ah ouais, mais j'ai fondé tel truc, j'ai créé des entreprises d'innovation qui vont révolutionner. Et alors? Et alors? Je suis un grand scientifique, et alors? Est-ce que tu te prépares à la vision béatifique? Est-ce que tu vis dans la foi aujourd'hui en te laissant regarder par Jésus? Préparons-nous au ciel. Préparons-nous à la vision béatifique. Et si le Seigneur vient avant notre mort, alléluia, voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, dit l'Apocalypse, au premier chapitre, verset 7. Même ceux qui l'ont transpercé, chacun verra. Parce que le Seigneur vient. Et le jour de la venue du Seigneur, on le verra. Chacun, sur les nuées, il vient. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, amen. C'est le jugement. Pourquoi il y a un jugement? Parce que justement, il faudra faire le clair, il faudra faire la lumière. Rien ne peut échapper à Dieu. Donc, dans nos vies personnelles, faire le clair. Les impuretés, que ce soit du côté du regard ou dans les d'autres domaines, on renonce. On renonce au péché. On renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions, et on s'attache à Jésus-Christ pour toujours. De sorte que, lorsque le Seigneur vient sur les nuées, on le verra. Et dans sa lumière, on verra la lumière, et on verra ce qu'il y aura à rectifier. Pour les grands amis de Jésus qui sont déjà amis de Jésus, il y aura peut-être des petites choses à modifier, sûrement. Pour les ennemis de Dieu, il y aura des pleurs et des grincements de dents, mais la lumière sera donnée pour chaque être humain. Pourquoi? Parce que tout homme ici-bas est ordonné à la vision béatifique. Et avec le choix de chacun et le cheminement de chacun, mais tout sera mis en lumière. Dieu est lumière. Cette béatitude des cœurs purs, ça nous met devant le mystère du Dieu. Lumière, en lui, point de ténèbres. Et si nous péchons, alors ben nous avons le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Et si nous avons des péchés, c'est le cas, des souillures et des choses comme ça, mais on se plonge et allons nous plonger dans le sang de Jésus, ne perdons pas de temps. Et en recevant le sang du Christ, on devient des lumières. Le sang du Christ est une telle puissance de purification que ça fait de nous des êtres lumineux. Avec des traces, des stigmates, oui, des traces, des plaies glorieuses. Mais que c'est lumineux au ciel, il n'y a que des plaies glorieuses. Et c'est magnifique. On aura des traces au ciel. Mais pas des traces de nos péchés comme des souvenirs. Non, c'est ah ouais, j'ai beaucoup péché. Non, on sera plus du tout là-dedans. On aura des traces de la gloire de Dieu, de sa miséricorde, de sa victoire. Et on ne proclamera que la victoire de Dieu de notre vie. Mais on aura des traces de nos blessures. Eh ben oui. La blessure et la trace, c'est pas la même chose, hein. Être crucifié sur le Golgotha et être ressuscité, c'est pas la même chose, on est d'accord. Jésus ressuscité apparaît avec des traces. Jésus ne souffre plus au ciel, il n'y a plus de souffrance, mais il y a des traces qui sont comme des ex-voto, j'allais dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les béquilles, vous savez, à Lourdes, accrochées, voilà. La béquille, quoi, ben c'est une trace. De quoi? Ben du passage de Dieu, des guérisons. Et au ciel, on ne sera que devant Dieu. Dieu est Dieu béni, Dieu guéri, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est lumière, Dieu est amour, etc. On sera que là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en nous, nous portons et nous porterons des traces de Jésus mort et ressuscité, de la victoire de Dieu en nous. Alors commençons dès maintenant. Dès maintenant, à vivre cette béatitude. N'attendons pas. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.